Il y a maintenant 2 mois, quasiment jour pour jour, je traitais la thématique du pardon dans le cadre de la série commencée déjà au mois de septembre sur la spiritualité chrétienne, grandir à la ressemblance de Jésus-Christ. Et nous avions, le 26 octobre, abordé le sujet du pardon en posant la question « Pourquoi pardonner ?» Je raffiche le plan de cette, pour rappel de cet enseignement du 26 octobre. Et nous avions répondu en 2 points. Premièrement, parce que Dieu désire pardonner. Et d'ailleurs, non seulement il désire pardonner, mais il nous a pardonné. Et puis deuxièmement, pour que Dieu nous pardonne. Avec en filigrane de notre propos, ce texte de Matthieu 18, les versets 21 à 35, qui est la parabole du serviteur impitoyable. Et aujourd'hui, nous abordons la thématique du pardon sous l'angle d'une autre question. Comment pardonner? Ou pardonner comment? Ou pour le dire autrement, qu'est-ce que signifie réellement pardonner? Pardonner, ça commence premièrement, en tant que personne offensée, par le fait d'aller vers notre offenseur. Jésus dit ceci en Matthieu 18, verset 15, « Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Jésus nous enseigne une manière de faire qui est radicalement différente de ce vers quoi notre nature humaine nous pousserait à faire. En effet, lorsque quelqu'un nous a fait du mal, notre nature humaine, qui est marquée par le péché, va nous pousser à entretenir de l'amertume, de la colère, et parfois même de la haine. Et souvent, on ne va plus vers la personne qui nous a fait du mal. Et on pourrait même avoir tendance à dire « c'est à elle de revenir vers moi ». C'est à elle de reconnaître son tort. Heureusement que Dieu ne s'est pas comporté ainsi à notre égard. Rapidement, l'exemple de l'apôtre Pierre qui a renié 3 fois Jésus. On lit ça dans l'évangile de Jean. Et pourtant, Jésus est allé vers, il a pris l'initiative de parler à Pierre. Jean chapitre 21, verset 15 et suivant. Jésus nous enseigne à aller vers notre offenseur, à être à l'initiative, de la même manière que Jésus est venu vers nous alors que nous l'avions offensé. Et c'est d'ailleurs ce que nous célébrons à Noël. Noël, ce n'est pas simplement le petit enfant dans la crèche, non, ce n'est pas cela seulement. Noël, c'est Dieu qui vient vers nous en la personne de son Fils, Jésus-Christ, Jésus le Messie, pour sauver son peuple de ses péchés, comme Marline nous l'a rappelé dans la première partie de ce culte. C'est ce qui illustre cette petite image, avec d'un côté cet arbre de Noël, et ce que nous célébrons à Noël, et puis de l'autre côté de cet arbre, ce bois, cette croix. Parce que Jésus vient à Noël, mais c'est pour mourir à la croix quelques 30 années plus tard. Noël pointe vers la croix. Jésus nous invite donc à aller vers l'offenseur. Et il y a plusieurs raisons à mentionner pour expliquer le bien fondé de cela. J'en relèverai au moins 2. Le fait d'aller vers notre offenseur, ça pourrait, on pourrait être amené à lui faire prendre conscience de quelque chose dont il n'a pas conscience. Peut-être qu'il n'a pas pris conscience de la mesure, de la portée, de l'impact de son acte, de sa parole à notre égard. Ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense de blesser quelqu'un sans même s'en rendre compte. On dit une petite parole comme cela en rigolant, et puis derrière, il y a quelqu'un qui souffre. Et on n'en a pas forcément conscience. Et tant que nous n'allons pas vers la personne qui nous a blessés, celle-ci n'en mesure pas la portée, n'en a pas conscience. Une deuxième raison, c'est qu'en allant voir notre offenseur, c'est une certaine forme aussi d'humilité envers nous-mêmes, à nous demander si peut-être nous aussi nous n'aurions pas commis un tort à son encontre. Vous savez, l'offense est très souvent le fait de deux parties, surtout dans des conflits, dans des relations qui tournent mal. Ce n'est pas toujours 0% de responsabilité d'un côté, puis 100% de l'autre. Parfois, c'est plus subtil. Et si notre offenseur avait quelque chose à nous reprocher, à nous aussi, est-ce que nous serions prêts à l'entendre? D'où cette forme aussi de remise en question, d'humilité, quand on est dans la démarche d'aller vers l'autre. Pardonner, donc, cela commence par aller vers la personne qui nous a offensés. Deuxièmement, pardonner, c'est faire grâce à notre offenseur. Dieu nous a pardonnés, mais c'est une grâce. Et donc, par définition, ça ne se mérite pas. Regardez ce que dit l'apôtre Paul en Éphésiens 1, verset 7. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse, etc., etc. Dans la Bible, les mots qui sont utilisés pour désigner, exprimer ce qu'est le pardon, que ce soit d'ailleurs dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, sont des mots qui signifient « enlever », « ôter », « jeter au loin », passer sur la faute ou couvrir la faute, renvoyer, remettre la dette de l'offenseur, acquitter, délier, faire grâce, comme dans ce texte d'Éphésiens 1, verset 7. Pardonner, c'est un acte de pure grâce, un acte d'amour immérité, par lequel nous remettons la faute de l'offenseur. Il n'est plus condamné à nos yeux. Le pardonner, c'est le libérer de la dette qu'il avait envers nous. Et en fait, nous lui faisons grâce comme Dieu nous a fait grâce. On lit cela d'ailleurs dans cette même lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 32. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement. » Comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Dans la parabole du serviteur impitoyable en Matthieu 18, je n'ai pas pris le temps de la relire ce matin, mais le serviteur n'a pas expérimenté au plus profond de lui-même le pardon de son maître. Il est seulement au bénéfice de la grâce que son maître lui a faite, mais sans prendre vraiment la mesure de l'immensité de cette dette, de cette grâce, et donc de la dette qu'il avait à l'encontre de son maître. Et par conséquent, il est incapable, à son tour, de reproduire cette même grâce envers un compagnon de service à qui il devait simplement des peccadilles. Est-ce que nous avons pris la mesure, si toutefois elle est mesurable, de notre dette à l'égard de Dieu, et donc de l'immensité de la grâce de Dieu à notre égard? Parce que si nous ne prenons pas conscience de cela, nous aurons bien du mal à pardonner à notre tour à quelqu'un qui nous aura fait du mal. Pardonner, c'est faire grâce comme Dieu nous a fait grâce en Jésus-Christ. Il y a deux considérations qui me semblent importantes dans la démarche du pardon. Première considération, c'est que la démarche du pardon implique la repentance de l'offenseur. Tout comme d'ailleurs le pardon que Dieu nous a accordé, octroyé, implique notre repentance. Qu'est-ce que c'est que la repentance? C'est la reconnaissance du mal que nous avons commis. C'est la volonté de ne pas refaire le mal. Et plus que la volonté, c'est aussi le fait de changer dans notre comportement. Avant que Jésus ne commence son ministère public, déjà Jean-Baptiste prêchait le baptême de repentance. Quand Jésus commence son ministère public, il appelle « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche » Matthieu 4, verset 17, ou Jésus le dit encore en Luc 13, verset 5. L'apôtre Pierre, après sa prédication le jour de la Pentecôte, il a dit à ceux et celles qui avaient eu le cœur vivement touché par cette prédication qu'il venait de faire, acte 2, verset 38, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et puis, au chapitre suivant, acte 3, verset 19, toujours dans la bouche de Pierre, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Pour que vos péchés soient effacés. Pourquoi il en serait différent en ce qui concerne le pardon que nous octroyons à notre prochain? D'ailleurs, Jésus le dit clairement dans l'évangile de Luc, chapitre 17, « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il pêche contre toi sept fois dans un jour, et que sept fois il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. » Je cite la note de bas de page de ce verset dans la Bible du Semeur, dans la version étude. « De même que Dieu pardonne à ceux qui changent d'attitude et de façon de vivre, les disciples sont appelés à pardonner à ceux qui se repentent. Car, par la repentance, celui qui a commis une offense considère enfin l'offense pour ce qu'elle est, à savoir un péché que l'offensé doit désirer pardonner. » Dieu attend de nous la repentance. Plusieurs raisons à cela. Déjà, pour le bien de la personne qui a été offensée. Autrement, en quelque sorte, ce serait comme donner raison à l'offenseur et tort à l'offensé. Donc ça ne va pas. Une deuxième raison, c'est à cause de l'offense elle-même. Un peu comme ce qu'on vient de lire dans la Bible d'étude du Semeur. Elle est un péché. Et donc, pardonner sans repentance, c'est comme, d'une certaine manière, en cautionner le mal, pour ne pas dire encourager le mal. Une troisième raison, la repentance est nécessaire par amour pour l'offenseur. Un peu comme le dit Jacques Buchold dans son livre « Le pardon et l'oubli ». Voici ce qu'il dit. Pardonner sans exiger de repentance peut donner l'apparence de la grâce. L'amour semble déborder, mais en réalité, c'est manquer de compassion. La repentance de l'offenseur serait sa délivrance, car son péché lui fait d'abord du mal à lui-même. Fin de citation. La repentance est vraiment à prendre en considération dans la démarche du pardon. Et là, j'imagine que nous avons tous en tête des situations avec des cas particuliers, tous plus compliqués les uns que les autres. Que faire dans le cas où l'offenseur persiste dans ses mauvaises actions, sans jamais changer dans son comportement, sans se repentir? Peut-on pardonner à une personne qui ne veut pas reconnaître son tort? Que faire dans le cas où l'offenseur se repent, mais par contre, c'est l'offensé qui ne veut pas octroyer le pardon? Et là, on est dans la position de l'offenseur et on ne peut pas recevoir le pardon de l'offensé alors que l'on s'est repenti. Qu'est-ce qu'on fait? Que faire dans le cas où on est offensé soi-même, mais l'offenseur est décédé? Etc, etc. Des situations qui ne sont pas simples et nous pourrons en reparler de manière interactive dans le format étude biblique au mois de janvier. Deuxième considération, c'est que la démarche du pardon vise la réconciliation de la relation entre l'offensé et l'offenseur. La restauration de la relation, ça vise, et le mot « vise » est important. Jésus nous dit en Matthieu 18, versets 19 et 20, « En effet, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Intéressant ce verset 20. On le cite quasiment à toutes les études bibliques, tous les moments de prière, toutes les rencontres. Dès qu'on est deux ou trois, on cite ce texte. C'est intéressant de rappeler le contexte dans lequel il est mentionné. Il s'agit ici du contexte du pardon qui est vécu au sein de l'Église, au sein de la communauté chrétienne. Jésus accorde sa présence, Jésus est présent au milieu d'eux, et le « e » ici, « e-u-x », ce sont des personnes qui ont été confrontées à un problème relationnel qui a été réglé, pardonné, il y a eu une réconciliation entre les personnes. C'est ce dont il est question dans les versets 15 à 18 que j'ai mis en filigrane juste au-dessus. Jésus est présent quand son Église vit l'unité, quand des personnes vont s'accorder pour prier ensemble et pour régler une situation conflictuelle. Souvenons-nous, le verset 15 qui est tout en haut là. « Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Tu as gagné ton frère. » Notre but, c'est le bien de l'autre, c'est le bien de la relation. Tout comme Dieu nous a pardonné pour que nous expérimentions une relation nouvelle avec lui, une relation restaurée entre nous, êtres humains, pécheurs, et lui, le Dieu tout-puissant, parfait. Eh bien, nos démarches de pardon devraient viser elles aussi la restauration de la relation. Et pour qu'il y ait cette restauration, cette réconciliation, il y a deux composantes qui sont importantes. La première, qui est plutôt du côté de l'offensé, c'est l'affaire de l'offensé, c'est l'oubli de l'offense. J'aimerais nous inviter à considérer ce que la Bible dit au sujet de ce que deviennent nos péchés quand Dieu les pardonne. Regardez, Michée 7, versets 18 et 19. « Quel est le Dieu semblable à toi qui efface les fautes et qui pardonne les péchés du reste de ton peuple qui t'appartient ? Toi, tu n'entretiens pas ta colère à jamais, mais tu prends ton plaisir à faire grâce. Oui, de nouveau, tu auras compassion de nous, tu piétineras nos péchés. » Et au fond de la mer, tu jetteras toutes nos fautes. Psaume 103, verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant Dieu éloigne de nous nos offenses. Ou encore, Ésaïe 44, verset 22. J'ai effacé tes crimes comme un nuage et tes péchés comme une nuée. C'est effacé. Quand Dieu pardonne, il oublie. Il passe par-dessus. C'est fini, il n'en parle plus. Si c'est pardonné, c'est pardonné. C'est pas pour nous le renvoyer en pleine figure au moment venu. Sinon, ce serait pas le pardon. C'est même jeté au fond de la mer, comme on l'a lu dans Michée. Notre pardon devrait-il être différent de celui de Dieu ? Je ne pense pas. J'ai déjà entendu quelqu'un dire, ce n'était pas ici, rassurez-vous, « Moi, je veux bien pardonner, mais par contre, oublier, jamais !» Que c'est dur d'oublier, de pardonner réellement. Oublier dans le contexte du pardon, cela revient à ne pas entretenir en soi-même intérieurement le souvenir d'une faute. C'est ne pas se rappeler à soi ni à d'autres le souvenir d'une faute. Pardonner, c'est enterrer la hache de guerre. Mais ça ne sert à rien d'enterrer la hache de guerre si on met un repère sur l'endroit où on l'a enterré. pour être sûr de pouvoir la déterrer au moment venu. C'est pas ça le pardon. Proverbe, on est dans les proverbes en ce moment, dans les rencontres de quartier. Proverbe 17, verset 9. Celui qui couvre une faute recherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses paroles divise les amis. Couvrir une faute, pour dire pardonner, c'est terminé, on n'en parle plus. Pardonner, c'est oublier l'offense. Si on pardonne sans oublier l'offense, c'est laisser comme une entrave à la restauration de la relation entre l'offensé et l'offenseur. Soit nous pardonnons réellement, soit nous ne pardonnons pas du tout. Et pardonner réellement, ça implique de ne plus rappeler le souvenir de la faute à soi-même ou à d'autres. Une deuxième composante à la réconciliation, et il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce point, c'est la notion de réparation. Alors là, cette fois-ci, c'est plutôt l'affaire de l'offenseur. L'oubli est plutôt l'affaire de l'offensé, la réparation, celle de l'offenseur. La réparation pour la faute commise, par exemple, rendre ce qui a été volé. On peut noter que la réparation n'est pas toujours possible. Que faire en cas d'adultère, en cas de violence, en cas de viol, en cas de meurtre, etc., etc. Il y a bien des situations où la réparation n'est pas toujours possible. Il y a des situations, des péchés, des offenses qui laissent des conséquences tellement lourdes que la réparation n'est pas toujours possible. Et par conséquent, il faut se rendre à l'évidence. La réconciliation peut avoir ses limites. Il faudrait se garder de penser que toute réconciliation devrait totalement restaurer la relation telle qu'elle était avant l'offense. Mais soyons réalistes, ce n'est pas toujours possible. Mais cela n'empêche pas que le pardon soit possible. Le pardon demeure possible. Pardonner, ce n'est pas une chose facile. Il suffit de regarder à Dieu qui a dû aller jusqu'à la croix pour que nous soyons pardonnés. Il a payé le prix du sacrifice de Jésus, son Fils, pour nous pardonner. Ça lui a coûté. On le rappelle régulièrement, mais il est allé jusqu'au bout, par amour pour nous. Et pardonner, c'est une démarche qui nous coûte à nous aussi, qui nous demande de l'humilité, qui nous demande de nous remettre en question aussi nous-mêmes. Quelles sont mes dettes à l'égard de Dieu? Mes dettes à l'égard de mon prochain? Alors que le Seigneur nous aide dans nos relations les uns avec les autres, et même au-delà de l'Église, que Dieu nous donne la grâce de pardonner. Et j'aimerais pour terminer mentionner l'exemple de Corrie ten Boom, une femme néerlandaise qui, avec sa famille, a aidé à cacher des juifs pendant l'occupation nazie, pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a été prise, elle a été envoyée avec sa famille dans un camp de concentration, elle a perdu toute dignité, elle a beaucoup souffert, elle a même vu mourir son père et sa sœur. Et voici ce qu'elle dit dans son livre autobiographique. C'était dans une réunion d'église à Munich que je l'ai vu, l'ancien agent du SS qui avait servi comme gardien devant la porte de douche au centre de traitement à Ravensbrück. Il était le premier des geôliers que j'avais vu depuis ce temps. Et soudainement, c'était tout revenu. La salle pleine d'hommes moqueurs, l'état de linge, le visage de Betsy, sa sœur, blanchi de douleur. Il s'est approché pendant que l'église se vidait, souriant et s'inclinant. « Je suis tellement reconnaissant pour votre message, Fraulein, » dit-il. « Pensez que, comme vous le dites, il m'a lavé de tous mes péchés. » Il avait tendu sa main pour serrer la mienne. Et moi qui prêchais si souvent aux gens de Bloemendal sur le besoin de pardonner, j'ai gardé ma main à mes côtés. Même tandis que les pensées de colère et de vengeance bouillonnaient en moi, je voyais là le péché. Jésus-Christ était mort pour cet homme. Est-ce que j'allais demander plus que ça ? Seigneur Jésus, j'ai prié, pardonne-moi et aide-moi à lui pardonner. J'ai essayé de sourire, j'ai lutté pour lever ma main, je ne pouvais pas. Je ne sentais rien, ni la moindre étincelle de chaleur ou de charité. Et donc, encore une fois, j'ai fait une prière silencieuse. Jésus, je ne suis pas capable de lui pardonner. Accorde-moi ton pardon. En lui prenant la main, quelque chose la plus incroyable a eu lieu. De mon épaule, tout au long de mon bras et à travers ma main, un courant semblait passer de moi à lui, tandis que dans mon cœur a surgi un amour pour cet inconnu qui m'a presque bouleversé. Ainsi, j'ai appris que ce n'est pas notre pardon, pas plus que sur notre bonté dont la guérison du monde dépend, mais c'est du sien. Quand il nous dit d'aimer nos ennemis, il donne ensemble, avec la commande, l'amour même. Je vous invite à un temps de silence pour laisser résonner ce que nous avons entendu ce matin et avant un dernier chant.